5. Peu après la pause déjeuner, vint le tour du quatrième groupe. L'attente recommença et les combattants revinrent un par un. Double d'abord, puis Stooks et Quilly enfin. Stooks avait une entaille si profonde à la joue que je voyais l'éclat de ses dents à travers, mais il marchait sans être soutenu. Jaya lui donna une serviette pour étancher le gros du saignement et il s'assit sur un banc près des seaux. La serviette blanche devint vite écarlate. Fried était appuyé dans le coin le plus proche. Stooks lui demanda s'il pouvait soigner son visage ouvert. Fried secoua la tête sans même lever les yeux. L'idée qu'il puisse bientôt obliger ce blessé à retourner au combat était insensée. C'était plus que du sadisme. Et pourtant, je n'en doutais pas un instant. Murph avait déjà éliminé la moitié du duo comique. S'il tombait contre Stooks au tour suivant, il le liquiderait sans peine, malgré sa blessure à l'épaule. Kla continuait à me regarder, mais son sourire avait disparu. Apparemment, il ne me considérait plus comme une proie facile, et par conséquent, je ne pouvais plus miser sur son relâchement. « Il va agir vite, » me dis-je, « comme il l'a fait avec Aï. » Dans mon rêve, Léa disait « Tu es plus rapide que tu ne le crois, Prince Charlie. » Mais c'était faux. À moins, évidemment, que je trouve une vitesse surmultipliée, alimentée par la haine. Le cinquième groupe fut convoqué sur le terrain. Bernd contre Gully, le petit Hilt contre le grand Oka, Eris contre un type trapu et musclé nommé Viz. Avant qu'Eris sorte du vestiaire, Jaya l'étreignit.
« Non, 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 pas de ça !»
s'exclama un des soldats de la nuit qui avait une voix de sauterelle.
« Allez, allez !»
Eris sortit la dernière, mais revint à la première. Elle saignait d'une oreille, mais rien de plus. Jaya se précipita vers elle, et cette fois, il n'y avait personne pour interrompre leur étreinte. On nous avait laissés seuls. Oka revint à son tour. Débuta ensuite une longue attente. Enfin, Gully réapparut, porté par un homme gris, autre que Percy, qui l'allongea sur le sol. Inconscient, respirant à peine. Un côté de son visage était enfoncé au-dessus de la tempe.
« Je veux tomber sur lui au tour suivant, » dit Bolt.
« Et moi, j'espère tomber sur toi, » grogna Amit. « Ferme-la !»
L'attente reprit. Par terre, Gully remua sans se réveiller. Je marchais jusqu'à la rigole à pisse. J'avais envie de me soulager, mais impossible. Je retournais m'asseoir, les mains jointes entre les genoux, comme avant les matchs de baseball et de football, avant que l'hymne retentisse. J'évitais de regarder Kla, mais je sentais qu'il m'observait, comme si son regard pesait des tonnes. La porte s'ouvrit. Deux soldats de la nuit se placèrent de chaque côté pour laisser passer Aaron et le grand intendant.
« Dernier duel du jour !»
annonça Aaron.
« Kla contre Charlie ! Allez, petits, on y va !»
Kla se leva aussitôt et passa devant moi en tournant la tête pour m'adresser un dernier sourire. Je le suivis. Ayota me regardait. Il me fit un étrange salut en portant sa main, non pas au front, mais sur le côté de son visage. Je connais son point faible. Alors que je passais devant Kellyn, celui-ci lâcha
« Je serais content d'être débarrassé de toi, Charlie. Si je n'avais pas eu besoin de 32 combattants... Je m'en serais déjà chargé moi-même. »
Deux soldats de la nuit ouvraient la marche. Kla avançait devant moi, la tête légèrement baissée, ses mains se balançant le long de son corps, les poings presque serrés, déjà. Derrière nous marchaient le grand intendant et Aaron, son lieutenant. Mon cœur cognait dans ma poitrine à grands coulants. Il m'a envoyé au tapis, mais ça m'a appris un truc. On suivit le couloir en direction des éclatantes rangées de lampes à gaz qui bordaient le stade. On passa devant les autres vestiaires et la salle du matériel. Le cou à la gorge, Ayota s'écroule, le seau roule sur le sol, Ayota rampe vers sa paillasse, Kla tourne la tête pour regarder le seau. On passa ensuite devant la salle des officiels, d'où il était possible de s'enfuir à en croire le message de Percy. « Je lance le pilon de poulet, il leur tint seau, Kla se retourne pour regarder. » Je commençais à comprendre. Je pressais le pas au moment où on émergeait du couloir sur la piste de course qui entourait le terrain. Je me portais presque à la hauteur de Kla. Il ne me regarda pas. Toute son attention était fixée sur le centre de la pelouse, là où étaient alignées les armes. Les anneaux et les cordes avaient disparu. Deux gants de cuir, aux jointures hérissées de pointes, attendaient sur la table où étaient disposés les rafraîchissements durant les entraînements. Les bâtons étaient rangés dans leur panier en osier. Un autre contenait deux courtes lances. Ayota n'avait pas répondu à mes questions. Mais peut-être l'avait-il fait à sa façon, au moment où je quittais le vestiaire. Cet étrange salut qu'il m'avait adressé n'en était peut-être pas un, c'était peut-être un message. Quelques applaudissements retentirent tandis qu'on suivait les soldats de la nuit vers la loge VIP, mais je les entendis à peine. De même que j'ignorais tout d'abord les spectateurs qui flanquaient la loge et même Eldon Flykiller. Je me concentrais sur Kla, qui s'était retourné pour regarder le seau rouler sur le sol de la cellule qu'il partageait avec Ayota et sur le pilon de poulet avec lequel je l'avais visé dans le vestiaire. Kla, qui semblait ne pas s'apercevoir que je m'étais presque porté à sa hauteur. Pourquoi ? Je connais son point faible, avait dit Ayota. Et je pensais le connaître moi aussi maintenant. Ayota ne m'avait pas adressé un salut. Il avait mimé une œillère, comme celle que porterait un cheval. Kla avait une vision périphérique restreinte, voire inexistante. 6. On nous conduisit, comme du bétail, jusqu'à la portion de la piste située devant la loge royale. Je me plaçai à côté de Kla, qui, au lieu de se contenter de me jeter un coup d'œil en biais, tourna la tête pour me regarder. Aussitôt, Kelly lui asséna un coup de badine sur la nuque, faisant couler un filet de sang.
« Ne t'occupe pas du faux prince, imbécile. Rends plutôt hommage au véritable roi. »
Ainsi, Kellyn était au courant des croyances des autres prisonniers. Étais-je surpris? Pas vraiment. La boue ne pouvait pas cacher éternellement le spectaculaire changement de couleur de mes cheveux. Et mes yeux, noisettes autrefois, devenus gris, viraient au bleu. Si Eldon n'avait pas insisté pour que les combattants soient au complet, j'aurais été tué plusieurs semaines auparavant déjà.
« Ah, genou !»
brailla Aaron de sa voix désagréable.
« Ah, genou ! Toi de l'ancien sang ! Agenouille-toi devant le nouveau sang ! Agenouille-toi devant ton roi !»
Petra, grande, brune, un grain de beauté au coin de la bouche, vêtue d'une robe de soie verte, la peau aussi blanche que du cottage cheese, s'écria
« À genoux, ancien sang ! À genoux, ancien sang !»
Les autres spectateurs, une soixantaine seulement, 70 au maximum, reprirent en chœur
« À genoux, ancien sang ! À genoux, ancien sang !»
La même scène s'était-elle produite avec les autres combattants? À mon avis, non. On avait droit à un accueil spécial, car notre duel était le dernier de la journée, l'attraction vedette. On s'agenouilla, Kla et moi, car on n'avait pas envie de recevoir des coups de badine, ou pire encore, d'être électrocutés par les auras de nos gardiens. Eldon avait l'apparence d'un homme à l'article de la mort. Un pied au bord de la tombe, l'autre sur une peau de banane, aurait dit mon oncle Bob. Telle fut ma première pensée. La seconde, qui la talonnait, fut... Ce n'est pas un homme. Autrefois, peut-être, mais plus maintenant. Sa peau avait la couleur d'une poire pas mûre. Ses yeux, bleus et humides, aussi gros que ma paume, jaillissaient de leurs orbites ridées et affaissées. Ses lèvres très rouges avaient quelque chose de féminin et elles pendaient mollement. Sa couronne, posée de travers sur ses cheveux blancs et fins, exprimait une effroyable insouciance. Sa robe violette, ornée de fines volutes dorées, ressemblait à un gigantesque caftan qui le couvrait entièrement depuis son cou boursouflé. Et, en effet, la robe bougeait.
« Comme s'il cachait un animal domestique dessous », avait dit Jaya.
Mais elle se soulevait et retombait à plusieurs endroits à la fois. À ma gauche, sur la piste, se tenait Red Molly, vêtue d'une mini-jupe en cuir, une sorte de kilt. Ses cuisses étaient énormes et musclées. Son long couteau pendait sur sa hanche droite dans un fourreau. Ses cheveux oranges formaient de petits épis sur son crâne, à la punk. De larges bretelles soutenaient sa jupe et masquaient une partie de ses seins nus. Voyant que je la regardais, elle fit une bouche en cul de poule pour m'envoyer un baiser. Flight Killer parla d'une voix obstruée qui ne ressemblait pas au bourdonnement insectoïde des soldats de la nuit. À croire que sa gorge était remplie d'un liquide visqueux. Non, les autres n'avaient pas eu droit à ce traitement de faveur, sinon ils nous l'auraient dit. Comment oublier l'horreur de cette voix inhumaine ?
Qui est le roi du monde gris, anciennement nommé Empis ?
Les personnes présentes dans la loge royale et les spectateurs répondirent habilement, à plein poumon :
Eldon !
Flight Killer nous toisait de ses énormes yeux semblables à des œufs. Des badines s'abattirent sur ma nuque et celle de Kla.
« Dites-le !» bourdonna Kéline.
« Eldon ?»«
Qui a vaincu à la fois les monarques sur terre et les monarques dans les airs ?»«
Eldon !»
brailla Petra plus fort que tous les autres. Sa main caressait une des bâches ouvertes d'Eldon. La robe violette se soulevait et retombait, se soulevait et retombait à une demi-douzaine d'endroits différents.
« Eldon !»
répéta-t-on, Kla et moi, pour éviter de nouveaux coups de badine.
« Que le duel commence !»
Une annonce qui n'appelait aucune réaction, hormis quelques applaudissements et cris d'encouragement. Kéline se tenait entre nous deux. Assez loin cependant pour éviter que son aura nous touche.
« Faites face au terrain » ordonna-t-il.
On s'exécuta. Je voyais Kla du coin de l'œil sur ma droite. Il tourna brièvement la tête vers moi et s'empressa de regarder devant lui. À environ 70 mètres de là, nous attendaient les armes du duel. Il y avait quelque chose de surréaliste dans la manière dont elles étaient soigneusement espacées, telles des trophées décernés au cours d'un jeu télévisé mortel. Je constatai immédiatement que quelqu'un, Flight Killer lui-même peut-être, mais je misais plutôt sur le grand intendant, avait fait pencher la balance en faveur de Kla, pour ne pas dire qu'il l'avait trafiqué. Le panier d'osier contenant les courtes lances, armes de prédilection assurément, se trouvait sur la droite, c'est-à-dire du côté de Kla. 20 mètres plus à gauche, il y avait la table avec les gants de cuir hérissés de piques. Et 20 mètres plus à gauche encore, en face de moi plus ou moins, un panier contenant des bâtons. Utile pour assommer quelqu'un, beaucoup moins quand il s'agissait de tuer. Nul ne nous informa de ce qui allait se passer ensuite, mais c'était inutile. On allait se précipiter vers les armes, et si je voulais une arme blanche plutôt qu'un gant ou un bâton de Boken, il faudrait que je double Kla.
« Tu es plus rapide que tu ne le crois », m'avait dit Léa.
Mais c'était dans un rêve. Là, c'était la vraie vie. Vous voulez peut-être savoir si j'étais terrifié. Oui. Mais je pouvais puiser dans ce puits sombre que j'avais découvert enfant, lorsque mon père semblait décidé à honorer la mémoire de sa femme, ma mère, en noyant son chagrin dans l'alcool et en faisant de nous des sans-abri. Je l'avais haï pendant toute une période, tout en me haïssant de le haïr. Résultat, je m'étais mal comporté. Aujourd'hui, j'avais d'autres choses à haïr et aucune raison de m'en vouloir. Alors oui, j'étais terrifié, mais une partie de moi-même était impatiente d'en découdre. Une partie de moi-même en avait envie. Flightkiller lança de son gargouillis inhumain autre objet de haine.
Maintenant !»